Chapitre 42. Comment les malheureux prennent parfois le hasard pour la providence. « Eh bien, madame, dit De Winter quand la reine eut éloigné ses serviteurs. « Eh bien, ce que j'avais prévu arrive, milord. « Il refuse ? Ne vous l'avais-je pas dit d'avance ? « Le cardinal refuse de recevoir le roi. « La France refuse l'hospitalité à un prince malheureux. « Mais c'est la première fois, madame. « Je n'ai pas dit la France, milord, j'ai dit le cardinal. « Et le cardinal n'est pas même français. « Mais la reine, l'avez-vous vue ? « Inutile, dit madame Henriette en secouant la tête tristement. « Ce n'est pas la reine qui dira jamais oui quand le cardinal a dit non. « Ignorez-vous que cet Italien mène tout, au dedans comme au dehors ? « Il y a plus, et j'en reviens à ce que je vous ai dit. « Je ne serais pas étonné que nous eussions été prévenus par Cromwell. Il était embarrassé en me parlant et cependant ferme dans sa volonté de refuser. Puis, avez-vous remarqué cette agitation au Palais-Royal, ces allées, ces venues de gens affairés ? Aurait-il reçu quelques nouvelles, milord ? Ce n'est point d'Angleterre, madame. J'ai fait si grande diligence que je suis sûre de n'avoir point été prévenu. Je suis parti il y a 3 jours, j'ai passé par miracle au milieu de l'armée puritaine. J'ai pris la poste avec mon laquais Tony, et les chevaux que nous montons, nous les avons achetés à Paris. D'ailleurs, avant de rien risquer, le roi, j'en suis sûr, attendra la réponse de votre majesté. Vous lui rapporterez, milord, reprit la reine au désespoir, que je ne puis rien, que j'ai souffert autant que lui, plus que lui, obligée que je suis de manger le pain de l'exil et de demander l'hospitalité à de faux amis qui rient de mes larmes, et que, quant à sa personne royale, il faut qu'il se sacrifie généreusement et meure en roi. J'irai mourir à ses côtés. « Madame, madame !» s'écria de Winter, « votre majesté s'abandonne au découragement, et peut-être nous reste-t-il encore quelque espoir ?»« Plus d'amis, milord, plus d'amis dans le monde entier que vous !»« Oh, mon Dieu !» s'écria madame Henriette en levant les bras au ciel. « Avez-vous donc repris tous les cœurs généreux qui existaient sur la terre ?»« J'espère que non, madame, » répondit de Winter Rêveur. « Je vous ai parlé de 4 hommes. »« Que voulez-vous faire avec 4 hommes ?»« 4 hommes dévoués, 4 hommes résolus à mourir peuvent beaucoup, croyez-moi, madame, et ceux dont je vous parle ont beaucoup fait dans un temps. » « Et ces 4 hommes, où sont-ils ? » « Ah, voilà ce que j'ignore. Depuis près de 20 ans, je les ai perdus de vue, et cependant, dans toutes les occasions où j'ai vu le roi en péril, j'ai songé à eux. « Et ces hommes étaient vos amis ? » ?»« L'un d'eux a tenu ma vie entre ses mains et me l'a rendue. Je ne sais pas s'il est resté mon ami, mais depuis ce temps, au moins, moi, je suis demeuré le sien. « Et ces hommes sont en France, milord ? » ?»« Je le crois. » Dites leur nom, peut-être les ai-je entendus nommer, et peut-être pourrais-je vous aider dans votre recherche. L'un d'eux se nommait le chevalier d'Artagnan. Oh, milord, si je ne me trompe, ce chevalier d'Artagnan est lieutenant aux gardes. J'ai entendu prononcer son nom. Mais faites-y attention, cet homme, j'en ai peur, est tout au cardinal. En ce cas, ce serait un dernier malheur, dit de Winter. Et je commencerai à croire que nous sommes véritablement maudits. Mais les autres, dit la reine qui s'accrochait à ce dernier espoir, comme un naufragé au débris de son vaisseau, les autres, milord. Le second, j'ai entendu son nom par hasard, car avant de se battre contre nous, ces 4 gentilshommes nous avaient dit leur nom. Le second s'appelait le comte de la Fère. Quant aux 2 autres, l'habitude que j'avais de les appeler de noms empruntés m'a fait oublier leurs noms véritables. « Oh, mon Dieu, il serait pourtant bien urgent de les retrouver, dit la reine, puisque vous pensez que ces dignes gentilshommes pourraient être si utiles au roi. « Oh oui, dit de Winter, car ce sont les mêmes. Écoutez bien ceci, madame, et rappelez tous vos souvenirs. N'avez-vous pas entendu raconter que la reine Anne d'Autriche avait été autrefois sauvée du plus grand danger que jamais reine ait couru ? Oui, lors de ses amours avec M. de Buckingham, et je ne sais à propos de quel ferré de diamant. Eh bien, c'est cela, madame. Ces hommes, ce sont ceux qui la sauvèrent, et je souris de pitié en songeant que si les noms de ces gentilshommes ne vous sont pas connus, c'est que la reine les a oubliés, tandis qu'elle aurait dû les faire les premiers seigneurs du royaume. Eh bien, milord, il faut les chercher. Mais que pourront faire quatre hommes, ou plutôt trois hommes, car, je vous le dis, il ne faut pas compter sur M. d'Artagnan. Ce serait une vaillante épée de moins, madame, mais il en resterait toujours trois autres, sans compter la mienne. Or, quatre hommes dévoués autour du roi pour le garder de ses ennemis, l'entourer dans la bataille, l'aider dans le conseil, l'escorter dans sa fuite, ce serait assez, non pas pour faire le roi vainqueur, mais pour le sauver s'il était vaincu, pour l'aider à traverser la mer, et quoi qu'en dise Mazarin, une fois sur les côtes de France, votre royal époux y trouverait autant de retraites et d'asile que l'oiseau de mer en trouve dans les tempêtes. Cherchez, milord, cherchez ces gentilshommes, et si vous les retrouvez, qu'ils consentent à passer avec vous en Angleterre. Je leur donnerai à chacun un duché le jour où nous remonterons sur le trône, et en outre autant d'or qu'il en faudrait pour paver le palais de Whitehall. Cherchez donc, milord, cherchez, je vous en conjure.
Je chercherai bien, madame, dit De Winter, et je les trouverai sans doute, mais le temps me manque. Votre Majesté oublie-t-elle que le roi attend sa réponse et l'attend avec angoisse ?
Alors nous sommes donc perdus, s'écria la reine avec l'expansion d'un cœur brisé. En ce moment, la porte s'ouvrit, la jeune Henriette parut, et la reine, avec cette sublime force qui est l'héroïsme des mères, renfonça ses larmes au fond de son cœur en faisant signe à De Winter de changer la conversation. Mais cette réaction, si puissante qu'elle fût, n'échappa point aux yeux de la jeune princesse. Elle s'arrêta sur le seuil, poussa un soupir, et s'adressant à la reine,
« Pourquoi donc pleurez-vous toujours sans moi, ma mère ?» lui dit-elle.
La reine sourit, et, au lieu de lui répondre, « Tenez, De Winter, lui dit-elle, j'ai au moins gagné une chose à n'être plus qu'à moitié reine. C'est que mes enfants m'appellent ma mère au lieu de m'appeler madame. » Puis, se tournant vers sa fille, « Que voulez-vous, Henriette ? » continua-t-elle. « Ma mère, dit la jeune princesse, un cavalier vient d'entrer au Louvre et demande à présenter ses respects à votre majesté. Il arrive de l'armée et a, dit-il, une lettre à vous remettre de la part du maréchal de Gramont, je crois.
« Ah ! Dit la reine à De Winter, c'est un de mes fidèles. Mais ne remarquez-vous pas, mon cher lord, que nous sommes si pauvrement servis que c'est ma fille qui fait les fonctions d'introductrice ?»«
Madame, ayez pitié de moi, dit De Winter, vous me brisez l'âme. »
« Et quel est ce cavalier, Henriette ?» demanda la reine.
« Je l'ai vu par la fenêtre, madame. C'est un jeune homme qui paraît à peine 16 ans et qu'on nomme le vicomte de Bragelonne. »
La reine fit en souriant un signe de la tête, la jeune princesse rouvrit la porte et Raoul apparut sur le seuil. Il fit 3 pas vers la reine et s'agenouilla.
« Madame, dit-il, j'apporte à votre majesté une lettre de mon ami, Monsieur le comte de Guiche, qui me dit avoir l'honneur d'être de vos serviteurs. Cette lettre contient une nouvelle importante et l'expression de ses respects. » Au nom du comte de Guiche, une rougeur se répandit sur les joues de la jeune princesse. La reine la regarda avec une certaine sévérité.
« Mais vous m'aviez dit que la lettre était du maréchal de Gramont, Henriette, dit la reine.
« Je le croyais, madame. » balbutia la jeune fille.
C'est ma faute, madame, dit Raoul. Je me suis annoncé effectivement comme venant de la part du maréchal de Gramont. Mais blessé au bras droit, il n'a pu écrire, et c'est le comte de Guiche qui lui a servi de secrétaire.
On s'est donc battu, dit la reine, faisant signe à Raoul de se relever.
Oui, madame, dit le jeune homme, remettant la lettre à De Winter, qui s'était avancé pour la recevoir et qui la transmit à la reine. À cette nouvelle d'une bataille livrée, la jeune princesse ouvrit la bouche pour faire une question qui l'intéressait sans doute, mais sa bouche se referma sans avoir prononcé une parole, tandis que les roses de ses joues disparaissaient graduellement. La reine vit tous ses mouvements, et sans doute son cœur maternel les traduisit, car, s'adressant de nouveau à Raoul, « Et il n'est rien arrivé de mal au jeune comte de Guiche ? » demanda-t-elle, « car non seulement il est de nos serviteurs, comme il vous l'a dit, monsieur, mais encore de nos amis. » « Non, madame, répondit Raoul, mais au contraire, il a gagné dans cette journée une grande gloire, et il a eu l'honneur d'être embrassé par monsieur le prince sur le champ de bataille. » La jeune princesse frappa ses mains l'une contre l'autre, mais toute honteuse de s'être laissée entraîner à une pareille démonstration de joie, elle se tourna à demi et se pencha vers un vase plein de roses, comme pour en respirer l'odeur. « Voyons ce que nous dit le comte, dit la reine. J'ai eu l'honneur de dire à votre majesté qu'il écrivait au nom de son père. « Oui, monsieur. » La reine décacheta la lettre et lut. « Madame et reine, ne pouvant avoir l'honneur de vous écrire moi-même pour cause d'une blessure que j'ai reçue dans la main droite, je vous fais écrire par mon fils, monsieur le comte de Guiche, que vous savez être votre serviteur à l'égal de son père, pour vous dire que nous venons de gagner la bataille de Lens et que cette victoire ne peut manquer de donner grand pouvoir au cardinal Mazarin et à la reine sur les affaires de l'Europe. Que votre majesté, si elle veut bien en croire mon conseil, profite donc de ce moment pour insister en faveur de son auguste époux auprès du gouvernement du roi. Monsieur le vicomte de Bragelonne, qui aura l'honneur de vous remettre cette lettre, est l'ami de mon fils, auquel il a, selon toute probabilité, sauvé la vie. C'est un gentilhomme auquel votre majesté peut entièrement se confier dans le cas où elle aurait quelque ordre verbal ou écrit à me faire parvenir. J'ai l'honneur d'être, avec respect, etc., maréchal de Gramont. » Au moment où il avait été question du service qu'il avait rendu au comte, Raoul n'avait pu s'empêcher de tourner la tête vers la jeune princesse, et alors, il avait vu passer dans ses yeux une expression de reconnaissance infinie pour Raoul. Il n'y avait plus de doute, la fille du roi Charles Ier aimait son ami. « La bataille de Lens est gagnée, dit la reine. Ils sont heureux ici, ils gagnent des batailles. Oui, le maréchal de Gramont a raison, cela va changer la face de leurs affaires. Mais j'ai bien peur qu'elle ne fasse rien aux nôtres, si toutefois elle ne leur nuit pas. « Cette nouvelle est récente, monsieur, continua la reine, et je vous sais gré d'avoir mis cette diligence à me l'apporter. Sans vous, sans cette lettre, je ne l'eusse apprise que demain, après-demain peut-être, la dernière de tout Paris. » « Madame, dit Raoul, le Louvre est le second palais où cette nouvelle soit arrivée. Personne encore ne la connaît, et j'avais juré à monsieur le comte de Guiche de remettre cette lettre à votre majesté avant même d'avoir embrassé mon tuteur. Votre tuteur est-il un Bragelonne comme vous ? Demanda Lord de Winter. J'ai connu autrefois un Bragelonne. Vit-il toujours ? Non, monsieur, il est mort, et c'est de lui que mon tuteur, dont il était parent assez proche, je crois, a hérité cette terre dont il porte le nom. Et votre tuteur, monsieur ? Demanda la reine, qui ne pouvait s'empêcher de prendre intérêt à ce beau jeune homme. « Comment se nomme-t-il ? » « Monsieur le comte de la Fère, madame, » répondit le jeune homme en s'inclinant. De Winter fit un mouvement de surprise. La reine le regarda en éclatant de joie. « Le comte de la Fère ? » s'écria-t-elle. « N'est-ce point ce nom que vous m'avez dit ?» Quant à De Winter, il ne pouvait en croire ce qu'il avait entendu. « Monsieur le comte de la Fère ? » s'écria-t-il à son tour. « Oh, monsieur, répondez-moi, je vous en supplie. Le comte de la Fère n'est-il point un seigneur que j'ai connu beau et brave, qui fut mousquetaire de Louis XIII et qui peut avoir maintenant 47 à 48 ans ? « Oui, monsieur, c'est cela en tout point. Et qui servait sous un nom d'emprunt ? Sous le nom d'Athos. Dernièrement encore, j'ai entendu son ami, M. d'Artagnan, lui donner ce nom.
« C'est cela, madame, c'est cela. Dieu soit loué.
Et il est à Paris ?» continua le comte en s'adressant à Raoul. Puis, revenant à la reine,
« Espérez encore, espérez !» lui dit-il. « La Providence se déclare pour nous, puisqu'elle fait que je retrouve ce brave gentilhomme d'une façon si miraculeuse.
Et où loge-t-il, monsieur, je vous prie ?»«
Monsieur le comte de la Fère loge rue Guénégaud, hôtel du grand roi Charlemagne. »
« Merci, monsieur. Prévenez ce digne ami, afin qu'il reste chez lui. Je vais aller l'embrasser tout à l'heure. »
« Monsieur, j'obéis avec grand plaisir si Sa Majesté veut me donner mon congé. »«
Allez, monsieur le vicomte de Bragelonne, dit la reine, allez, et soyez assuré de notre affection. »
Raoul s'inclina respectueusement devant les deux princesses, salua de Winter et partit. De Winter et la reine continuèrent à s'entretenir quelque temps à voix basse pour que la jeune princesse ne les entendît pas. Mais cette précaution était inutile, celle-ci s'entretenait avec ses pensées. Puis, comme De Winter allait prendre congé,
« Écoutez, milord, dit la reine, j'avais conservé cette croix de diamant qui vient de ma mère et cette plaque de Saint-Michel qui vient de mon époux. Ils valent à peu près 50 000 livres. J'avais juré de mourir de faim près de ces gages précieux plutôt que de m'en défaire. Mais aujourd'hui que ces deux bijoux peuvent être utiles à lui ou à ses défenseurs, il faut sacrifier tout à cette espérance. Prenez-les, et s'il est besoin d'argent pour votre expédition, vendez sans crainte, milord, vendez. Mais si vous trouvez moyen de les conserver, songez, milord, que je vous tiens comme m'ayant rendu le plus grand service qu'un gentilhomme puisse rendre à une reine, et qu'au jour de ma prospérité, celui qui me rapportera cette plaque et cette croix sera béni par moi et par mes enfants.
« Madame, dit De Winter, votre majesté sera servie par un homme dévoué. Je cours déposer en lieu sûr ces deux objets que je n'accepterai pas s'il nous restait les ressources de notre ancienne fortune. Mais nos biens sont confisqués, notre argent comptant est tari, et nous sommes arrivés aussi à faire ressource de tout ce que nous possédons. Dans une heure, je me rends chez le comte de la Fère, et demain votre majesté aura une réponse définitive. »
La reine tendit la main à lord de Winter, qui la baisa respectueusement, et, se tournant vers sa fille,
« Milord, dit-elle, vous étiez chargé de remettre à cet enfant quelque chose de la part de son père. »
De Winter demeura étonné. Il ne savait pas ce que la reine voulait dire. La jeune Henriette s'avança alors, souriante et rougissant, et tendit son front au gentilhomme. « Dites à mon père que roi ou fugitif, vainqueur ou vaincu, puissant ou pauvre, dit la jeune princesse, il a en moi la fille la plus soumise et la plus affectionnée.
« Je le sais, madame, répondit de Winter en touchant de ses lèvres le front d'Henriette. Puis il partit, traversant sans être reconduit ses grands appartements déserts et obscurs, essuyant les larmes que, tout blasé qu'il était par 50 années de vie de cour, il ne pouvait s'empêcher de verser à la vue de cette royale infortune, si digne et si profonde à la fois.